Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, petite révolution sur l'agglomération manosquine. Les professionnels devront payer leurs dépôts en déchetterie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La CCI 04 engage la réflexion via la RSE pour sensibiliser les entreprises du BTP notamment. Provence-Alpes-Agglomération devient un territoire en transition. Odile Frison a interviewé Sandrine Cossera, élue en charge du dossier. Téléphonie mobile et Internet assurés à Saint-Martin-de-Brome et Esparron, Free et Enedis ont érigé un pylône impressionnant qui a été inauguré officiellement. Reportage pour Force 7 dans un instant. À Saint-Michel-l'Observatoire, le parc du Luberon restaure des pelouses sèches. Explication dans ce magazine. À Château-Arnoux, le Théâtre Durance propose des audio-balades. Chris Alessandri a suivi les travaux de l'organisation et la proposition d'Ottilie B. Son reportage à la fin de ce magazine. Les professionnels devront payer pour leurs dépôts en déchetterie.
Depuis des années, les déchetteries de DLV Agglo ont un accès gratuit pour tous. Via l'impôt, ce sont les citoyens qui paient, mais pas les entreprises. Problème, car celles-ci apportent la moitié des dépôts collectés. Ce n'est pas normal, et cette collecte gratuite n'est pas dans les compétences de l'agglomération qui est en train de revoir sa politique envers les déchets et le tri sélectif. En même temps, les entreprises développent la RSE qui établit leur responsabilité sociétale et la question environnementale en fait partie. Si la RSE améliore l'image et l'action du secteur privé, les entreprises doivent s'en donner les moyens. Et dans le cas présent, ce sont les bâtiments et travaux publics qui sont visés. Les dépôts sauvages sont interdits, les amendes sont lourdes et la convention signée entre la CCI 04 et l'agglomération manosquine planifie la fin de la gratuité des déchetteries aux professionnels. Ce sont de nouvelles habitudes à prendre pour préserver notre environnement au juste prix. L'agglomération a établi un calendrier assez serré. Reste aux entreprises à s'organiser par rapport au maillage du territoire et leur obligation de recyclage. La filière de retraitement des déchets du BTP sur un schéma circulaire est donc attendue. Je vous propose d'écouter les signataires de cette convention, Anne Lavran, membre du bureau de la CCI 04, et Vincent Alvar, vice-président de l'agglomération manosquine. Anne Albran, vous êtes secrétaire de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence. C'est un partenariat public-privé qui est en train de se dessiner.
Oui, tout à fait. C'est important de pouvoir impliquer les entreprises. C'est la base de tout.
Alors justement, c'est la RSE qui est favorisée dans cette action.
Oui, absolument. La responsabilité sociétale des entreprises. C'est un gros dossier de la Chambre de commerce que j'ai l'honneur de porter et qui s'implique à tous les niveaux.
Il faut sensibiliser les chefs d'entreprise, mais aussi leur personnel.
Oui, ça c'est important et c'est souvent le personnel qui permet de pousser un peu les chefs d'entreprise qui pourraient, être le nez dans le guidon et avoir un peu moins le temps de s'impliquer. C'est souvent le personnel qui est à l'origine de cette démarche.
Avec également dans ce cas-là la gestion des déchets, et notamment des déchets des professionnels.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est très important. C'est eux qui représentent une grande part des déchetteries. Aujourd'hui, 50%, ce qui a été rappelé. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer.
Ça va être difficile de faire comprendre qu'il faut encore payer un surplus aux professionnels.
Bien sûr, mais d'un autre côté, il y a un intérêt économique aussi pour eux. Et ça va être détaillé au titre des travaux de la convention qui a été signée aujourd'hui.
Alors votre président Daniel Margot l'a dit, il y a une question de génération de chefs d'entreprise avec des chefs d'entreprise actuellement qui sont plus âgés et moins conscients peut-être des aspects environnementaux et économiques qui sont étroitement liés.
Oui, c'est peut-être un peu une question de génération, encore que bon, ça dépend un petit peu des personnes. C'est souvent une question de taille d'entreprise. Les petites entreprises ont moins le temps de s'en préoccuper. Peut-être que, effectivement, avec les nouveaux chefs d'entreprise qui, de fait, vont arriver plus jeunes, ils auront peut-être plus cette démarche-là.
Alors, votre mission RSE au sein de la Chambre de commerce, ça consiste en quoi et quels sont vos projets ?
Ça couvre en fait tous les aspects de l'entreprise et aller vers une entreprise qui soit plus responsable d'un point de vue sociétal, alors à la fois évidemment environnemental, c'est ce à quoi on pense tout de suite, mais également bien-être des salariés, et ça aussi c'est très très important.
C'est une obligation légale ?
En partie oui, il y a certaines choses qui deviennent des obligations légales petit à petit et d'autres qui sont plus portées par le fait que la société impose ça aussi d'un point de vue, on va dire, plus général.
Vincent Alvar, vous êtes vice-président de DLVA Agglo. Cette convention est issue d'un constat très simple. 50% des déchets des déchetteries de DLVA Agglo sont composés par et apportés par les professionnels.
Oui, nous avons sur les 25 000 tonnes collectées chaque année sur le territoire de l'agglomération au travers de nos 10 déchetteries, on a environ 50% qui sont apportées à la fois par la filière du BTP, mais aussi par tout ce qui est artisans professionnels locaux.
Et évidemment, tout ça s'est fait gratuitement et c'est aux dépens des, tout simplement des habitants des collectivités.
Oui, sur les 10 déchetteries, l'accès est gratuit et est financé par la taxe des enlèvements des ordures ménagères, donc la TOM, qui est payée directement par nos administrés.
Parlons de la fourniture de matériaux. Quand un chef d'entreprise commande du matériau, par exemple du bois, de l'aluminium, du plomb, il paie par exemple une partie au fournisseur pour le recyclage de ce matériau et ce n'est pas le cas.
Si, il paye quand il le prend. Maintenant, ses déchets, il faut qu'il les ramène à son fournisseur. Les fournisseurs ont une obligation de récupération des déchets issus des produits qu'ils vendent. Il est là le problème, c'est que cette récupération ne se fait pas souvent, pas tout le temps, et donc ça impacte du coup le secteur de nos déchetteries, parce que les artisans vont plutôt directement en déchetterie.
Alors évidemment, c'est un dossier qui est à la fois environnemental et économique, qui mêle d'ailleurs public et privé, ça aussi c'est plutôt intéressant, c'est à noter. C'est également un dossier qui va mobiliser les entreprises, notamment via la RSE, et ça c'est un point important qui est innervé aussi et regardé avec beaucoup d'attention de la part de votre agglomération.
Effectivement, la solution de facilité, ça serait de dire, se recentrer, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais pas uniquement, c'est-à-dire dire, nous, c'est simplement les déchets des ménages et des assimilés, excusez-nous, mais nos déchetteries, nous, elles sont pas là pour accueillir les professionnels. On n'est pas dans cette configuration-là, on souhaite vraiment ce travail de partenariat, et ce travail de partenariat, on le trouve sur cette convention avec la CCI, donc une partenariat public-privé, où on veut accompagner, inciter et être facilitateur de mise en place de solutions et de solutions de proximité aussi pour nos professionnels, parce que c'est pas évident non plus, c'est pas leur objet premier, le recyclage ou le traitement de leurs déchets. Donc c'est vrai qu'il faut leur faciliter quand même le travail à ce niveau-là.
Les deux questions qui viennent sont évidemment la suppression des dépôts sauvages, premièrement, mais la deuxième aussi, c'est la gestion et d'une nouvelle génération des déchetteries.
Sur les dépôts sauvages, c'est tout ce travail de pédagogie et d'accompagnement qu'on va faire sur les mois qui arrivent, de façon à les limiter. Il y en a déjà, même avant déjà d'avoir commencé ce travail-là. Donc voilà, il va falloir qu'on accentue, qu'on soit vigilant, que les maires sur leurs communes soient aussi vigilants par rapport à ça, et qu'il y ait ce travail de pédagogie. Ensuite, l'accès à nos déchetteries, on y travaille et on va voir comment économiquement on peut aussi quand même proposer des solutions de proximité.
Vous avez des pistes déjà pour les prochaines déchetteries, voire la prochaine déchetterie ?
Alors sur les déchetteries, on a une déchetterie qui est en train de se finaliser sur Quinçon, qui devrait être inaugurée, je le souhaite, avant la fin du premier semestre 2022. Et là, on travaille sur la problématique de la déchetterie de Manosque et de Pierrevert, qui sont plus aux normes et pour lesquelles il faut trouver une autre solution et une autre solution géographique aussi. Donc ça avance. Prochainement, on aura des infos à vous communiquer.
P2A, territoire en transition.
Face à l'urgence climatique, Provence-Alpes Agglomération a élaboré son plan climat-air-énergie territorial, PCAET. Il comprend 6 axes, les bâtiments, la mobilité, le développement des énergies renouvelables, la réduction et le tri des déchets, les circuits courts et enfin le maintien de la biodiversité avec au total 49 actions concrètes. P2A a établi un plan de mobilisation pour améliorer l'environnement et également obtenir des sources d'économie pour la collectivité. Un livret d'informations est en ligne sur le site de l'agglomération, mais sera aussi disponible dans les mairies. Vice-présidente déléguée à la transition écologique et citoyenne, Sandrine Cossera répond aux questions d'Odile Frison.
Sandrine Cossera, aujourd'hui vous présentez à la presse un carnet, un livret qui est destiné à qui et dans quel objectif ?
Effectivement, ce livret, c'est notre plan climat air énergie rédigé en quelques pages pour devenir compréhensible pour d'abord les élus, parce que en fait, il s'agit que chacun comprenne bien les engagements que nous avons pris, hein, une déclaration d'urgence climatique, un plan climat air énergie avec 49 actions, donc un zoom sur un certain nombre d'actions emblématiques pour que nous consommions moins d'énergie et émettions moins de gaz à effet de serre. Donc ça, la première chose, c'est qu'on voulait que ce soit bien compris par les élus, parce que derrière, il y a des décisions à prendre en permanence, hein, pour faire avancer cette ambition. La faire comprendre aussi aux agents. On a 350 agents dans l'agglo, donc l'idée c'est bien leur faire comprendre le sens des actions qu'ils mènent, hein, pour nous tous, et puis aussi pour les habitants, parce que nous avons notre part à faire. L'agglo, les communes doivent être exemplaires dans la transition, mais aussi les entreprises ont leur part à faire, les citoyens, les habitants ont leur part à faire. Donc l'idée c'est de donner des pistes sur lesquelles nous pouvons tous progresser ensemble.
Est-ce qu'on peut dire que le département, on est assez mauvais élève au niveau du tri des déchets par rapport au plan national ?
Alors, nous avons une marge de progrès très forte. Aujourd'hui, 3 chiffres, hein, nous déposons chacun sur l'agglo 313 kilos de déchets par an dans les poubelles. La moyenne au niveau national, c'est 250 kilos par an. Donc ça fait quand même un écart de 63 kilos. Quand on sait le coût que ça représente, de l'ordre de 120 euros hein, pour enfouir, et si on y ajoute la taxe sur les activités polluantes, on voit qu'on est à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui est un coût pour la collectivité qu'on ne devrait pas avoir. Donc il faut absolument qu'on devienne plus vertueux sur ces sujets-là. Effectivement, ce sujet des déchets est un exemple de sujet sur lequel nous avons beaucoup à progresser et qui fait pleinement partie de notre plan climat air énergie territorial. Donc nous, la collectivité, nous avons besoin d'avoir des moyens d'investir sur ce sujet-là, pour pouvoir aussi rendre plus facile l'acte de tri pour les habitants, l'acte de redonner vie à un objet aussi. Voilà. Donc, tous ces sujets-là font effectivement pleinement partie du projet.
Vous parliez de nouvelles personnes embauchées pour réaliser plusieurs missions. Quelles sont ces missions ?
Oui. En fait, quand on affiche une ambition politique sur un sujet, et là, pour le coup, celui de la transition écologique, évidemment, derrière, il faut mettre des ressources, hein. Ça se fait pas tout seul. Et c'est ce que notre agglo a fait. Donc moi, je salue cet effort, hein, cet engagement qu'a pris notre agglo en rendant concret l'engagement. Donc aujourd'hui, on a deux services on en a même plus, mais on a deux services qui sont pleinement engagés sur ce sujet-là. On a le service de l'environnement, hein, avec Nicolas Morel et Mathilde Jiménez, hein, qui a été recruté pour renforcer le plan alimentaire territorial, tous les projets d'économie circulaire, mais aussi pour travailler sur quantifier nos consommations d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on ne peut rien progresser si on ne quantifie pas. Donc là, il y a ce service. Et puis on a un autre service qui travaille aussi sur des actions très concrètes, qui est le service de maîtrise de l'énergie, où quand on a démarré en 2017, il y avait une personne, et aujourd'hui, il y a 3 personnes sur le service. Donc Stéphane, Corentin et Patrice travaillent pour à la fois la P2A, mais aussi en soutien aux communes, pour réduire les consommations d'énergie, pour changer les systèmes de chauffage des bâtiments publics, pour travailler sur la réduction de l'éclairage public, la diminution de l'intensité lumineuse la nuit quand elle n'est pas utile, parce que ça fait faire aussi des économies. Voilà, donc d'ailleurs, ils s'appellent des économes de flux. Donc ça, ce sont des actes très concrets de notre agglo pour pouvoir rendre efficient, efficace nos engagements.
Alors, il y a encore beaucoup à faire et vous dites que tout ne se fera pas sans l'aide des citoyens. Évidemment, ce sont des objectifs à atteindre tous ensemble.
Oui. Donc dans le plan d'action du plan climat et énergie, donc il y a 49 actions. Donc il y en a certaines, c'est indispensable, c'est l'exemplarité de la collectivité. Qu'est-ce qu'elle-même a fait sur ses bâtiments, sur ses flottes de véhicules, sur ses tri des déchets. Mais après, on a aussi un certain nombre d'actions qui consistent à communiquer et à inciter d'autres acteurs, et notamment les entreprises. D'ailleurs, je salue l'engagement des entreprises de Provence-Alpes-Agglomération dans le programme Éco-Défi qu'on a mené en partenariat avec la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Donc plus de 100 entreprises qui se sont engagées pour réduire leur consommation et leurs émissions de gaz à effet de serre. Bravo. Et puis il y a aussi les habitants. Et donc on a comme envie, comme mission d'encourager chacun à être vertueux dans cette transition, d'améliorer leur habitat. Donc là, on a aussi des dispositifs qui sont mis à leur disposition, le dispositif SAR, où il y a des permanences, il y a 5 permanences sur l'agglo chaque mois, pour pouvoir accompagner les habitants qui le souhaitent à mobiliser des aides pour la rénovation énergétique de leur habitat. Donc là-dessus, on va essayer aussi de bien communiquer, mieux communiquer, pour qu'ils puissent se servir aussi de ces aides qui sont proposées, qu'a mis en place d'ailleurs le conseil départemental, qui est aussi notre partenaire sur le sujet. Et puis, évidemment, chaque habitant doit aujourd'hui s'interroger sur la façon dont il trie ses déchets. C'est un axe de travail essentiel pour notre agglo, parce que là, il y a des vraies économies à faire. Et en même temps, des pressions extrêmement fortes, notamment sur la taxe sur les activités polluantes, qui nous oblige. Les nouvelles lois sur le...
Finalement, c'est une bonne chose d'augmenter la taxe pour sensibiliser les citoyens à faire quelque chose.
Moi, je trouve que c'est dommage d'en arriver là, mais le temps a passé. Et on n'a pas posé suffisamment de résultats. Donc aujourd'hui, effectivement, je crois que ça va passer par la taxe. Essayons de faire en sorte que rapidement, nous puissions être dans un cercle vertueux et que retrouver des marges d'investissement et aussi faciliter l'acte de tri pour chaque habitant.
Pour revenir juste sur ce petit livret, est-ce que donc il est à destination des agents? Est-ce que n'importe quel citoyen habitant du territoire peut se le procurer?
Oui, alors du coup, il va être tout prochainement mis en ligne sur le site de l'agglo. Donc c'est un site ressource que j'invite chacun à consulter, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur quelles sont les compétences de notre agglomération et comment elle fonctionne. Et donc il y aura aussi ce livret qui sera mis à disposition. On va aussi en distribuer dans les mairies, donc il y en aura quelques-uns dans les mairies pour les habitants qui préfèrent le papier que le numérique.
Saint-Martin-de-Brome, la 4G grâce à Free et Enedis.
La magnifique tour carrée du XIVe siècle qui fait l'orgueil du village a désormais une petite sœur récente, tout aussi haute mais également très utile et attendue. Un pylône imposant de 40 mètres de haut a été construit sur les hauteurs de la commune afin d'abriter un relais téléphonie et internet qui dessert un territoire qui n'avait pas ou peu de réseau. Fondu dans le paysage, il est discret malgré sa taille. À la manœuvre, l'opérateur Free et Enedis pour l'approvisionnement électrique, avec bien sûr la mobilisation des acteurs, notamment locaux. Les habitants de Saint-Martin-de-Brome et d'Esparron, mais aussi leurs visiteurs, car la région est très fréquentée en période estivale, ont enfin accès au réseau depuis quelques mois. Un soulagement général et un frein à l'attractivité qui saute, cette antenne relais 4G fait partie de la cinquantaine de projets concernant le 04 qui mobilisent les communes, le conseil départemental, le syndicat mixte ouvert et l'État. Nous entendrons la sous-préfète Nathalie William, qui était présente à cette inauguration, les deux maires de Saint-Martin-de-Brome et Esparron, Laurence Despieds et Guy Burle, disent leur satisfaction, mais d'abord, Sébastien Matheron, directeur d'Enedis 0405, revient sur le chantier mené en coordination avec l'opérateur privé Free. Il a fallu creuser et appeler un hélicoptère en renfort. Sébastien Matheron, vous êtes le directeur Alpes du Sud Enedis. C'est un chantier conséquent que vous avez mis en œuvre ici même à Saint-Martin-de-Brome.
C'est un chantier remarquable qui a été mené avec une grande collaboration à la fois des services de l'État, des opérateurs. Là, en l'occurrence, c'est l'opérateur Free qui est l'opérateur leader pour installer cette antenne relais sur laquelle les quatre opérateurs s'installent. Et puis nous, Enedis, service public de la distribution d'électricité qui accompagnons toutes les dynamiques territoriales. Nous avons intégré le comité de pilotage départemental, préfectoral, puisque sur toutes les antennes relais qui doivent être raccordées, il faut forcément de l'énergie électrique. Et donc, on doit amener l'électricité jusqu'au relais.
Comment est-ce que vous avez procédé sur Saint-Martin-de-Brome? Parce que l'électricité est beaucoup plus loin que le pylône, là où il est installé.
Effectivement, les opérateurs choisissent avec les communes le meilleur endroit possible pour avoir la meilleure couverture possible. Et à nous de trouver le tracé pour amener l'énergie électrique jusqu'au pylône. En l'occurrence, sur Saint-Martin-de-Brome, on ne pouvait pas emprunter le domaine public uniquement parce que le trajet était très long. Et donc, nous avons fait le choix de passer sur du domaine privé. Il a fallu donc rechercher des conventions, des autorisations de passage. Une première solution qui était assez courte n'a pas abouti avec les propriétaires, mais nous avons pu trouver avec d'autres propriétaires une solution alternative satisfaisante. Et cela nous a permis de construire les 500 mètres de réseau moyenne tension, réseau 20 000 volts, pour pouvoir monter de la ligne électrique jusque sur le sommet de la colline en souterrain. Et là, nous avons implanté un poste de distribution publique, un poste de transformation pour passer en basse tension. Et là, il y a encore eu 50 mètres de basse tension jusqu'à l'antenne relais.
On va continuer avec le métrage si vous voulez bien. C'est un pylône qui fait entre 40 et 50 mètres de haut, qui est assez conséquent. Comment est-ce que vous avez fait pour l'ériger sur ce massif, qui est un massif forestier en plus?
Alors, l'installation du relais téléphonique est à la charge de l'opérateur. Donc c'est Free qui a installé ce pylône-là. Il se trouve que, compte tenu de l'accès, et pour que ce soit plus simple pour eux, ils ont choisi de faire un héliportage. Donc une drop zone avait été trouvée, proposée par Madame la maire de Saint-Martin, de Brome. Donc Free a pu héliporter les différentes parties de son ouvrage jusque sur la colline.
Vous avez d'autres chantiers qui sont prévus dans les Alpes du Sud?
Alors oui, puisque en fait, depuis le début du programme, il y a une cinquantaine de dossiers qui sont en cours. Et donc, nous suivons ça, nous, en mode projet, avec les collectivités et avec l'État, pour pouvoir acheminer l'électricité au moment où l'opérateur doit mettre en service son antenne relais. C'est réparti sur tout le territoire départemental. Nous sommes organisés sur Alpes du Sud avec des bases opérationnelles qui couvrent les deux départements. Donc on est capable d'aller construire du réseau partout.
Et de faire du partenariat aussi, c'est très important avec les collectivités, l'État et le privé.
Bien sûr, déjà parce que à Enedis, nous marchons sur deux jambes, les collectivités et l'État. Les collectivités qui sont propriétaires des réseaux, donc on les construit pour leur compte, nous les exploitons pour leur compte dans le cadre d'un contrat de concession. Il se trouve que sur le département, l'entité publique, c'est le SDE 04. Et nous construisons le réseau pour leur compte et l'exploitons pour leur compte. Et puis l'État, qui est à la fois notre régulateur et notre actionnaire. Bien sûr, du coup, il est important qu'on travaille avec tous les opérateurs dès le départ, dès qu'eux, ils sont sûrs de leur projet, pour pouvoir trouver les meilleures solutions ensemble. Et ça a très bien marché avec Free sur ce dossier-là.
Nathalie William, vous êtes sous-préfète de Fort-Calquier. Vous avez dit votre plaisir d'être présente à cette inauguration.
Tout à fait, j'étais très heureuse de participer à la mise en service du pylône 4G de Saint-Martin-de-Brome. C'est un moment qui n'est pas un moment anodin. Un pylône 4G, ça change la vie des habitants qui vivent à proximité. Ça améliore la vie des habitants de Saint-Martin-de-Brome, des habitants d'Esparron de Verdon, puisque grâce à la couverture en téléphonie et grâce à la couverture numérique, on peut plus facilement échanger, s'informer, les entreprises peuvent plus aisément se développer. Et surtout, l'installation de ce pylône permet d'avoir un accès au téléphone facilité, donc de pouvoir joindre les services de secours de façon plus rapide. Et on sait à quel point c'est essentiel, en particulier dans cette zone qui est soumise à des risques très forts en matière d'incendie. Et il est évident qu'avoir accès dans cette zone à un téléphone et à des services de secours de façon très rapide peut permettre de sauver des vies.
Le département des Alpes-de-Haute-Provence fait partie d'un grand plan national avec plusieurs sites qui sont déjà répertoriés et d'autres qui sont en activité.
Exact. Ce pylône 4G s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle le New Deal Mobile, qui est un programme porté par le gouvernement depuis 2018 en lien avec les opérateurs de téléphonie mobile pour résorber la fracture numérique et assurer la couverture mobile sur tout le territoire, et notamment dans les territoires ruraux comme notre département des Alpes-de-Haute-Provence. 52 sites ont été répertoriés, ont été identifiés pour permettre l'implantation de pylônes 4G. À ce jour, 16 sont mis en service, dont celui de Saint-Martin-de-Brome que nous venons d'inaugurer, et donc d'autres sont encore à venir. Et ce qu'on constate, c'est que grâce au déploiement du New Deal mobile, la couverture départementale en matière de téléphonie s'est améliorée de façon significative. Entre 2015 et 2020, la couverture départementale en téléphonie mobile et en Internet est passée de 15 à 79%, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, 98% de la population du département a accès à une couverture mobile, au moins par un opérateur. Et l'objectif est de poursuivre évidemment ces efforts pour faire en sorte que la couverture soit la plus large possible dans le territoire.
Laurence Depied, vous êtes maire de Saint-Martin-de-Brome. Saint-Martin-de-Brome qui a désormais une deuxième tour, pas historique, mais une deuxième tour.
Une belle vigie de métal qui s'élève presque aussi haute d'ailleurs que notre tour historique. Oui, on a depuis quelques mois la chance d'avoir la 4G, une bonne couverture sur tout le territoire.
Et c'est une collaboration que vous avez instaurée avec vos amis d'Espérance de Verdon, mais également avec les sociétés qui s'en occupent, autrement dit Free et Enedis.
C'est une belle concertation en effet, à la fois sur le choix de l'implantation et en même temps sur la visualisation de la couverture que pouvait donner cette implantation. Et effectivement, en se décalant de quelques centaines de mètres, on a permis de couvrir une partie de la zone blanche d'Espérance.
Ce pylône est placé sur les hauteurs de Saint-Martin-de-Brome pour pouvoir arroser un maximum de territoire. Vous avez eu des difficultés pour accéder à ce pylône en termes de passage et de servitude pour les propriétaires ?
Pas de difficultés du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi un terrain qui était en bordure de voie, donc une voie qui était parfaitement entretenue et qui a d'ailleurs, il faut le souligner, été refaite par RTE pendant le temps du chantier de l'antenne, et des propriétaires qu'on a su convaincre.
La téléphonie mobile, c'était une demande récurrente de vos administrés ?
C'était un vrai problème dans certains secteurs du village, oui, c'est vrai. Alors, à la fois à l'intérieur des habitations de tout le village, bâti, historique, et puis quelques problématiques dans des zones isolées, notamment on avait un gîte qui était complètement en zone non couverte et quelques habitations isolées. Donc oui, ça a permis de régler quelques problèmes du type on ne sort plus dans la rue pour téléphoner, on peut téléphoner de l'intérieur de chez soi.
À vos côtés, votre collègue d'Espérance de Verdon. Guy Burle, la demande était importante également dans votre village.
Alors la demande était importante sur ce secteur qui tournait vers Saint-Martin-de-Brome, où il n'y avait pas de couverture, avec aussi des campings qui sont dans cette zone. Donc, sur la partie touristique, c'est important, et aussi très important sur le niveau sécurité pour les habitants, pour les touristes qui sont là, pour aussi les gens qui sont sur le lac au niveau des secours, puisque cette antenne couvre la moitié du lac. Donc c'est un projet important pour nous. Sur notre commune, il reste la partie vers Albiox et Quinçon. Il y a une zone qui n'est pas desservie, mais qui rentre dans le programme New Deal pour 2024. Donc il y a une antenne similaire qui est prévue sur Albiox et qui permettra de couvrir notamment là-bas 3 campings important, et puis tous les habitants d'Albiox et des alentours d'Albiox.
On peut rappeler le nombre d'habitants que vous avez l'hiver et puis le nombre de personnes que vous accueillez l'été ?
Alors l'hiver, on est en recensement, on est 420 dans ces eaux-là. On peut mettre un zéro en plus pour l'été. En gros, c'est ça, hein. C'est pas évident à mesurer, mais on est dans ces fréquentations.
Vous avez souffert en 2005 d'un incendie qui est encore dans toutes les mémoires. Avec justement la téléphonie mobile accessible, on peut peut-être arriver à maîtriser ce genre d'événement.
Ça peut être intéressant au niveau du déclenchement des secours au démarrage de l'incendie. Après, il faut vérifier les supports parce que rapidement, quand on a un incendie, on n'a plus d'électricité. Les lignes sont coupées pour pouvoir intervenir avec des canadaires. En 2005, on a eu plus de téléphonie au bout de 2 heures.
On espère désormais que vous n'aurez plus de feu non plus.
Oui, bien sûr. Il y a des choses qui ont été rectifiées depuis, et c'est vrai qu'il y a quand même une amélioration sur cette communication téléphonique, mais c'est vrai que si on lance un plan de secours, enfin le plan de sauvegarde communal, s'il faut aller évacuer un camping, etc., c'est quand même plus intéressant de prévenir si on a des liaisons téléphoniques.
La 4G, c'est une satisfaction pour vous ?
Alors la 4G sur Esparon, ça fait quelques années qu'on l'a. C'est bien qu'on ait un support supplémentaire parce que en période estivale, ça sature. Tous les ans, Orange nous dit on rajoute des barrettes qu'ils appellent, mais ça suffit jamais. C'est la course à la barrette, mais c'est la course à la consommation téléphonique et internet sur le téléphone. Hein. Mais bon, avec l'arrivée de la fibre et puis ces antennes supplémentaires, je pense que ça va améliorer les choses. Dans ce volet, il y a tout le volet économique, bien sûr, aussi, hein, pour les personnes. Et puis, nous, sur notre ruralité, c'est important qu'il y ait cette communication, notamment pour le télétravail, et ça peut nous emmener des habitants supplémentaires dans nos villages.
Laurence Despieux, pour les Saint-Martinois, c'est important et puis c'est positif.
Oui. Important, bien sûr, hein, on va pas redéfinir les contours de ce que permet la téléphonie, mais Guy l'a souligné. Et au-delà de tout ça, c'est des échanges, des liens nourris qui peuvent se développer.
Saint-Michel, l'Observatoire restaure ses pelouses sèches.
Le parc naturel régional du Luberon participe à la réalisation de travaux pour la restauration des pelouses sèches et milieux semi-ouverts sur les crocs de Saint-Michel, l'Observatoire. L'opération vise à faciliter l'accès du troupeau avec un double objectif, entretenir les milieux remarquables des crocs et permettre une meilleure gestion pastorale sur le mois de février et mars 2022. Sur place, un contrat Natural 2000 a été passé avec l'éleveur ovin Louis Morin, chargé de mission Forêt et Natura 2000 et animateur de la charte forestière de territoire Luberon-Lure, Lilian Carr présente cette action au micro de Mathieu Marc.
Le projet ici sur le site Natura 2000 de restauration des pelouses, il est né par rapport en fait à ce qu'on observe naturellement, qui est en fait la recolonisation des pelouses par les arbres. Et donc en fait, comme dans ce site Natura 2000, les pelouses sont rares et comporte une forte biodiversité, très intéressante biodiversité. Le but, c'était de conserver ces pelouses et donc de faire un projet avec un agriculteur, un éleveur ovin, pour justement enlever un certain nombre d'arbres pour le retour des espèces de pelouses et le retour en fait des bêtes dans les crocs.
Alors, pour préciser ce que vous appelez pelouse, ce n'est pas l'image qu'on peut avoir d'une pelouse verte comme un terrain de golf, par exemple, mais ça ressemble davantage au paysage de Provence.
Oui, c'est ça. Donc, on est sur des pelouses qu'on appelle des pelouses sèches sur calcaire. Donc, ils sont assez typiques de la région méditerranéenne. Donc, ça fait des pelouses un peu stépiques avec donc quand même une dominance des graminées, de la fétuque, par exemple, en association avec des petits arbustes comme le thym, des plantes très méditerranéennes avec le romarin notamment, et aussi beaucoup d'orchidées. Ça a plutôt un aspect stépique, un peu sec, mais à la période de mai-juin, c'est très vert et très très fleuri.
Comment se construit un contrat Natura 2000? Comment se précise cet engagement réciproque?
Alors déjà, il faut s'entendre en fait sur ce que l'agriculteur qui porte le projet veut faire et quelle idée il a aussi du projet, parce que voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve dans un contrat Natura 2000. Ensuite, il faut aussi définir des zones sur lesquelles on va intervenir. Donc, sachant que en l'occurrence pour les crocs, la plupart des surfaces qui sont concernées par ces travaux sont pas localisées dans les propriétés de l'éleveur, mais dans des propriétés d'autres habitants des crocs. Et donc aussi, il y a un travail de communication et de médiation avec les différents propriétaires pour savoir s'ils acceptent ou pas, s'ils s'y retrouvent aussi, parce que dans les crocs, on a aussi la culture de la truffe qui est assez importante. Et donc là, en l'occurrence, dans les sites sur lesquels on intervient, il y a des chênes truffiers. Et donc, il faut arriver à jongler entre les différents enjeux. Et une fois qu'on a un peu ce qu'on veut faire, et les surfaces, il faut ensuite trouver les entreprises compétentes pour venir faire les travaux, les réaliser, vérifier que ce soit bien fait, et ensuite, après les travaux, de bien mettre en place le pastoralisme et de faire un suivi en fait de si ça a marché ou pas.
Et ce type de contrat Natura 2000, ça permet d'avoir un suivi sur 5 ans, ce qui est un avantage, j'imagine.
Ça permet d'avoir en fait une sécurité aussi au niveau des pratiques qui seront faites dans les parcelles engagées. Et donc après, en fait, au niveau du suivi, bah, ça sera des relevés botaniques, des relevés d'insectes, pour aussi se rendre compte que on a bien toujours les espèces de pelouse en association avec d'autres espèces. Parce que voilà, on enlève des arbres, mais on conserve quand même un milieu en mosaïque avec des alvéoles de milieu ouvert, donc de pelouse, et des alvéoles de milieu un peu plus fermé, un peu des landes et des garrigues.
Peut-être une dernière chose, pour revenir sur les sites Natura 2000, on pourrait les définir comme des sites qui protègent les espèces et les habitats rares et fragiles. Dans notre région, il y en a beaucoup de ces sites. Vous, particulièrement, vous occupez d'autres sites Natura 2000?
Alors moi, sur mon poste, je suis que sur un seul site, c'est donc le Luberon Oriental, donc Adrée de Montjustin, Crête de Vaux et Les Crocs. Mais au parc du Luberon, on est sur 5 autres sites Natura 2000. Et en fait, les sites Natura 2000, c'est aussi défini à l'échelle européenne. Donc en fait, c'est un réseau de sites qui est assez vaste et assez bien réparti dans tout l'ensemble de l'Europe. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez sur les milieux rares, donc en fait, dans un site Natura 2000, on définit des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaire qui sont soit rares, en fait, mais pas forcément rares à notre échelle locale, mais ça peut être des habitats qui sont intéressants à l'échelle de l'Europe pour leur intérêt géographique. Donc, par exemple, les pelouses des crocs, c'est un habitat qui est pas forcément très très rare à l'échelle méditerranéenne et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais à l'échelle de l'Europe, qui est très intéressant puisque c'est parmi les seules localités en fait en Europe. Et le but, voilà, de ces contrats et de l'action du parc, c'est pas forcément de mettre l'accent sur l'écologie à tout prix, mais aussi de faire que toutes les pratiques agricoles, surtout agricoles traditionnelles comme l'élevage et le pastoralisme, puissent aller de pair avec la biodiversité. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que voilà, la richesse de ces pelouses est aussi due au pastoralisme ancien, en fait, à la synergie entre les pratiques et la biodiversité.
Audio balade au Théâtre Durance, au cœur d'une création.
Au programme du Théâtre Durance à Château-Arnoux-Saint-Auban, place à la création avec les audio balades. Une belle aventure artistique propose une randonnée en décor naturel, accompagnée d'une composition musicale imaginée spécialement pour cette petite marche. Les itinéraires sont choisis à partir de propositions de balades faites par les habitants du territoire, puis les artistes créent une histoire, une mise en scène et un accompagnement musical. Une aventure originale qui permet de porter un regard neuf sur des lieux connus ou à découvrir. En pleine création artistique dans le studio d'enregistrement du Théâtre Durance, Chris Alessandri a suivi la directrice de l'établissement, Elodie Prel, et sa responsable de la communication, Marie Rouge, ainsi que l'artiste et créatrice d'une audio-balade, Otilie B.
Il pleut des planètes dans nos têtes petites. Et les voitures accélèrent sur la langue de route aux reflets anthracites. Des fois que tout s'arrête, regarde. Les colosses pénitents ralentissent par leur présence la courbe du temps qui s'esquisse.
Elodie Prel, le printemps se fête ici à Château-Arnoux, les petites fleurs éclosent et la musique est là, le spectacle, il est toujours omniprésent.
Oui, et puis ce printemps-là, on l'attend vraiment avec beaucoup, beaucoup d'impatience parce que, bon, déjà, on a le droit de ne plus porter le masque dans la salle avec le pass sanitaire. On a quand même de bons espoirs que le pass soit levé d'ici peut-être la fin de l'hiver, le début du printemps. Et donc, on espère un retour à une certaine normalité qu'on attend depuis si longtemps. Et puis, la nature nous accompagne, voilà. Les amandiers sont en fleurs déjà. On a eu quand même un hiver très doux avec des ciels bleu marine. Enfin, donc, ça réjouit les cœurs. Nous, ça nous réjouit dans nos métiers, dans les envies de spectacle qu'on a envie de présenter, dans ce territoire qu'on a envie d'explorer encore plus. Et du coup, le printemps, il est quand même très chargé, même s'il y a moins de spectacles au théâtre, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités en extérieur, et ça nous réjouit toujours.
La directrice du théâtre du Rance est bien entourée aujourd'hui avec à vos côtés.
Alors, Ottilie B, compositrice, chanteuse qu'on connaît, qu'on a accompagnée, elle est venue enregistrer ses 3 albums chez nous. Elle a joué ses 3 albums aussi au théâtre du Rance et on lui a confié la création d'une audio-ballade qui va être inaugurée au mois de juin. Donc elle est en ce moment au studio pour enregistrer cette audio-ballade et on est très 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 content de la accueillir à nouveau. Et Marie Rouge, responsable de la communication et des relations avec les publics au théâtre du Rance, qui est aussi très en lien, une cheville ouvrière entre le projet artistique, le projet culturel, toutes les associations avec lesquelles on travaille, tous nos partenaires. Voilà, c'est quelqu'un de très, très juste et très sensible à cet endroit-là.
Ottilie B, la création, c'est quelque chose qui vous représente ?
La création est quelque chose qui m'anime en tout cas. Je ne sais pas si ça me représente, mais c'est comme une gentille obsession. Alors ici, dans le cadre de l'audio-ballade, mon envie c'était de mettre en valeur ces espaces entre deux. J'ai toujours été attirée par les pénitents d'aimer en prenant l'autoroute qui descendait vers le sud ou en remontant. Il y a vraiment quelque chose de très aimantant du paysage. Et je me suis dit, tiens, si on prenait le temps de s'arrêter en sortant à la bretelle d'autoroute d'aimer et de venir explorer le territoire, le paysage autrement, avec tous nos sens. Et du coup, ben, j'ai choisi cet endroit-là pour l'audio-ballade.
Marie Rouge, le public, il est là, ce public, et la communication, elle est toujours là. J'allais dire même cette alchimie que vous souhaitez et que vous créez à chaque fois.
Alors, c'est une alchimie qu'on construit au quotidien entre la rencontre avec les projets artistiques, les envies des artistes, et essayer de les comprendre au mieux. Évidemment, le projet du théâtre, mais il est là en fond, en permanence. Et après, au quotidien, c'est tisser des liens avec des individus, des groupes, des partenaires en tout genre. Et là, on accompagne Ottilie sur le projet de l'audio-ballade pour créer un rendez-vous le jour de l'inauguration, puisque c'est la première fois que le public pourra découvrir l'audio-ballade.
Je voulais dire qu'il y avait quelque chose de particulier. J'ai pris un soin particulier à ce que la balade, elle soit accessible au plus grand nombre. Donc, elle est accessible aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. Elle est accessible aux parents avec des poussettes. Voilà. Du coup, c'est une route. Alors, il y a toute une partie qui est quand même pas mal sur de la route, mais je trouvais comme un sac plastique qui vole dans les airs. Il y a toujours des choses poétiques dans les paradoxes de nos sociétés contemporaines, en fait. Et cette balade, elle va dans cette direction-là, de trouver du beau, de la poésie dans des choses sur lesquelles on n'a pas forcément envie de s'attarder.
Cette complicité que vous établissez, elle ne s'improvise pas, hein. Il faut qu'elle soit là. Il faut vraiment que ça prenne tout de suite. Comment vous faites ?
Je sais pas. Je crois que j'y mets une intention et une intuition la plus juste possible. Je sais pas. J'essaye d'être là, tout simplement.
Ça dépend énormément du public aussi, il faut qu'il soit très réceptif, il faut que tout de suite la complicité soit là.
Dans le cadre d'une audio-ballade, on réfléchit à l'adresse avant en fait. Du coup, c'est vraiment autre chose qu'un spectacle vivant. Je crois que c'est au moment où on est dans l'enregistrement, dans la conception de l'histoire qu'on a envie de transmettre, que ça se passe, et ça se passe pas en direct parce que c'est déjà figé dans le marbre, un peu comme les pénitents, c'est figé dans le temps. Et là, c'est en ce moment qu'on réfléchit à ça, à comment cette adresse, elle est créée au préalable.
Ottilie B, cette histoire, alors pour en parler un tout petit peu sans déflorer.
Je crois que je me suis déjà exprimée là-dessus. Vraiment réfléchir à des contrastes, à amener les gens à trouver de la poésie dans un espace dans lequel elle n'est pas forcément mise en valeur à la base. Et c'est quelque chose qui va aussi questionner sur le futur dans le passé dans le futur, confronter les légendes en fait, nos légendes personnelles aux légendes plus vastes qui nous servent à construire et à faire société en fait. Pour l'instant, c'est complètement de l'imaginaire du coup sur l'audio-ballade. Est-ce qu'il y a un contact? Je le garde en tête, je le garde encore, je le garde dans mon être, en fait, ce contact-là, pour pas perdre le fil, justement, et le lien.
Tilly a essayé de construire un nouvel imaginaire autour des pénitents d'aimer. Elle nous a demandé d'y associer des enfants. Donc, il y a plusieurs écoles qui ont participé à ce projet en répondant à des questions, notamment l'école de Montfort. Et il y a aussi des adultes qui ont raconté leur propre histoire avec les pénitents, leur mémoire de ce territoire-là. Et du coup, ces petites matières vont entrer dans l'enregistrement et dans le projet à venir.
Comment on voit que le temps passe ? Mais parce qu'il s'abîme. J'adore.
Voilà. Chaque audio-balade est une aventure et un espace d'imaginaire où les artistes nous emmènent. L'idée, c'est que vraiment, on a, nous, des paysages remarquables. On a, enfin voilà, toutes ces questions de la mémoire, des imaginaires, ce qui fait commun ou pas, et qui s'adresse à des gens qui vivent ou des gens qui sont de passage. C'est comment, nous, on laisse notre petite trace, qui est celle-là, et qui est confiée à des artistes. Parce que des audio-balades historiques, bon, il y en a plein qui existent, ou patrimoniales, elles existent. Et là, on est un lieu de création, donc on est bien là pour amener de la création aussi dans les oreilles des gens et dans l'imaginaire et dans l'espace public.
Côté agenda, donc l'inauguration de l'audio-balade en compagnie d'Ottilie se fera le 4 juin à 18h. C'est important de noter aussi que cette audio-balade sera disponible sur notre site internet, rénové pour l'occasion, dans un espace qui s'appelle l'écoutorium, que je vous invite à découvrir. Et par ailleurs, donc 17 et 18 juin, les escapades en plein air à partir de 19h et la présentation de saison les 28 et 29 juin à 19h et cette fois au théâtre.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Oui Olivier, merci pour la régie. À bientôt.